Radio Okapi.
Bonjour à tous, nous poursuivons comme annoncé notre thème sur les jeunes et la résolution 2250. Pour rappel, cette résolution invite les jeunes au maintien et à la promotion de la paix et de la sécurité dans leur milieu. Nous avions, dans le précédent numéro de 100% jeunes, évoqué la problématique liée à la sensibilisation et à la vulgarisation par les jeunes de cette résolution. Nous nous penchons aujourd'hui sur les perspectives envisagées pour bien impliquer les plus des jeunes dans l'effectivité de cette résolution. 100% jeune, c'est parti. Tout d'abord, commençons par les raisons qui ont poussé à voter la résolution 2250 au sein de l'ONU. Et c'est avec Thérèse Kankou. Bonjour Thérèse.
Bonjour Baya. À la veille de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur la consolidation et la pérennisation de la paix, plus de 75 délégations ont tenté d'évaluer la contribution des jeunes au maintien et à la promotion de la paix et de la sécurité internationale à la suite de l'adoption en décembre 2015 de la résolution 2250, la première à pleinement reconnaître une telle contribution. Les participants ont notamment examiné les recommandations formulées dans une étude indépendante réalisée à la demande du Conseil et discuté des mesures à prendre pour traduire la résolution dans la pratique. À l'origine donc de la résolution 2250 et de cette étude, il y avait ce constat que les États et les systèmes multilatéraux ont eu du mal à consulter réellement les jeunes pour l'ONU, toute personne âgée de 18 à 29 ans, à travailler avec eux et à les intégrer pleinement aux activités de paix et de sécurité, expliquait la présidente péruvienne du Conseil dans une note des cadrages. Avec la Suède, le Pérou a travaillé sur un nouveau projet de résolution destiné à compléter la résolution 2250 de 2015. Ce n'est pas tous les jours que le Conseil de sécurité a l'opportunité de se pencher sur un rapport indépendant qui contient les voix des plus de 4000 jeunes de toutes les régions du monde qui représentent eux-mêmes les aspirations des millions d'autres jeunes, s'est exclamé l'envoyé du secrétaire général pour la jeunesse en 2015, Madame Jayatma. On commence à réaliser que les jeunes sont les absents de la paix, a estimé l'envoyé qui a souligné que l'étude menée sous la direction de M. Graham Simpson offrait une nouvelle conception du rôle des jeunes. En effet, celle-ci reconnaît que seule une minorité d'entre eux s'engage dans la violence et met en garde contre les politiques des paniques déclenchées par les présomptions infondées selon lesquelles les jeunes seraient violents. En 2016, environ 408 millions de jeunes vivaient dans des zones touchées par un conflit armé ou frappées par la criminalité organisée, ce qui signifie qu'au moins un jeune sur quatre était touché d'une manière ou d'une autre par l'un de ces fléaux, a relevé M. Simpson. L'auteur principal de l'étude a expliqué que celle-ci avait été réalisée avec un groupe consultatif d'experts nommé par les secrétaires généraux et en associant des jeunes de tous les horizons. Soucieuse de contrer les idées fausses et de combattre la violence et l'exclusion, l'étude a présenté à l'intention des États membres et des autres acteurs concernés une stratégie à long terme pour améliorer la conception des politiques et programmes en vue de renforcer l'influence positive des jeunes en matière de paix et de sécurité. Les propositions visent à investir dans les capacités des jeunes, élargir leur inclusion dans les sphères politiques, économiques et socioculturelles et édifier des partenariats avec les jeunes à l'ONU ou en dehors. L'exclusion de l'expérience des jeunes et la méfiance qu'ils expriment vis-à-vis des autorités nationales et internationales devraient nous servir d'avertissement à tous, a souligné les secrétaires d'État pour les affaires régionales et les affaires multilatérales globales de la Roumanie, s'exprimant en tant que président de la Commission des consolidations de la paix. Tout au long de la journée, nombre des intervenants, tout en insistant sur le potentiel des jeunes comme agents d'un changement nécessaire, ont en effet mis en garde contre les risques de voir ces mêmes jeunes recourir à la violence ou être embrigadés par des groupes extrémistes ou terroristes, s'ils se sentent exclus de la société, que ce soit des processus de prise de décision ou du marché du travail. C'est pourquoi la plupart des participants se sont aussi attachés à décrire les initiatives prises pour améliorer l'éducation et renforcer l'intégration des jeunes et leur apport au processus de paix et aux initiatives liées à la sécurité et à la consolidation de la paix, un effort qu'ils ont en outre étroitement associé au programme de développement durable à l'horizon 2030.
Quelles sont les perspectives envisagées pour bien impliquer les plus de jeunes dans l'effectivité de la résolution 2250? Hervé Vauca s'est entretenu avec deux jeunes ambassadrices de la paix sur cette question.
Je suis Dorcas Boalelo, ambassadrice de la paix auprès de la MONUSCO. Alors, en ce qui concerne les perspectives pour renforcer l'implication de jeunes à la 2250, nous pensons premièrement à accroître la sensibilisation de jeunes autour de cette résolution. Deuxièmement, nous pensons qu'il est important ou nécessaire d'avoir une loi portant mesures d'application de la résolution 2250. Troisièmement, nous pensons qu'il est important de renforcer les capacités des organisations de jeunes de la société civile, particulièrement ceux de jeunes, puisque ce sont ces organisations-là qui feront justement des sensibilisations. Alors, c'est important de leur renforcer en capacité et le permettre à participer efficacement aux instances décisionnelles. Nous pensons aussi que la réforme de la loi électorale est importante, tout en rendant coercitive la participation de jeunes ou la présence de jeunes sur les listes électorales assorties des sanctions. Autant que nous militons pour que l'on modifie l'article 14 de la loi électorale sur le quota ou sur la coercition de cet article en sanctionnant les dispositions discriminatoires, en sanctionnant justement les listes électorales qui ne tiendront pas compte des femmes, autant nous pensons que c'est important ou impérieux de sanctionner aussi les listes électorales qui n'atteindront pas le quota de la jeunesse. Nous devons aussi identifier tout autre texte juridique discriminatoire à l'égard des jeunes et les réformer. Il est important de signaler qu'il y a des textes juridiques actuellement qui excluent justement la présence de jeunes dans la vie publique. Je vois par là la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, par exemple, qui fixe l'âge pour devenir membre de la plénière de la CENI du bureau à 30 ans au minimum. Alors que selon l'Union africaine, la jeunesse commence à partir de 18 ans. Donc nous pensons par exemple que cette loi-là exclut une majorité, une grande partie de jeunes. Il y a aussi un autre élément, il faudrait évaluer la politique nationale de la jeunesse en RDC adoptée en 2009 et adopter une nouvelle politique 10 ans après. C'est important d'évaluer cette politique qui est une ligne directrice des différentes actions de jeunes. Un autre élément, c'est de mettre en place un comité de pilotage, de suivi et d'évaluation de la résolution 2250 qui sera composé des différentes associations de jeunes. Que c'est important d'avoir un manifeste d'appel à l'action aux autorités politiques et certaines personnalités en vue de respecter cette résolution. Un dernier élément, il est important aussi d'alléger certains critères afin de permettre aux jeunes à accéder à des financements de bailleurs de fonds et de mettre en place un fonds spécial pour la résolution 2250 qui pourra aider le jeune à mener les activités qui visent à promouvoir justement cette résolution 2250 qui porte sur jeunes, paix et sécurité.
Prisca Maniala, présidente nationale des étudiants de la RDC, ambassadrice de la paix auprès de la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo. Pour moi, les perspectives sont de contribuer à édifier une société congolaise beaucoup plus pacifique, inclusive et véhiculant auprès de nos communautés des actions sensibilisant les jeunes femmes et les jeunes hommes congolais à mieux vivre ensemble et à se mettre debout pour consolider la paix en RDC. Parce que lorsque nous parlons de la résolution 2250 impliquant les jeunes dans la consolidation de la paix sur les questions de paix et de sécurité, très peu de jeunes sont au courant. Et pour cela, il faut une sensibilisation profonde, il faut véhiculer des valeurs, il faut véhiculer cette connaissance auprès des jeunes. Et la meilleure façon de le faire pour nous, c'est utiliser la communication non violente comme outil de prévention et de résolution pacifique des conflits communautaires. Mais il faut que les jeunes se l'approprient. Il faudrait former des centaines de jeunes sur l'engagement citoyen pour leur permettre de mieux comprendre leur rôle dans la consolidation de la paix les outiller, les rendre capables à leur tour de participer dans le présent et à l'avenir au processus de paix dans leurs communautés respectives. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'être seulement dans les zones de conflit, mais dans nos communautés directes, comment est-ce que les jeunes pourront s'impliquer? Et pour ça, il faut que les jeunes soient conscients qu'il y a une résolution que la RDC a ratifiée qui leur donne le droit, mais encore plus le devoir de jouer un rôle de médiation dans les différents conflits qu'on a au niveau de nos communautés, parce que parler de paix en RDC ne concerne pas seulement la paix avec les pays voisins, mais c'est aussi la paix entre nous en interne. Nous savons que les conflits qu'on a en RDC ne sont pas que des conflits armés. Il y a les conflits tribalo-ethniques, il y a différentes sortes de conflits, il y a des conflits politiques, et pour ça il faut que les jeunes s'offrent la responsabilité des bons offices. Et aussi j'aimerais dire une chose, que dans les prochains jours, je l'ai dit un peu plus tôt, nous allons former des centaines de jeunes à travers la RDC sur l'engagement citoyen, afin que ces jeunes puissent savoir qu'ils ont un rôle dans la consolidation de la paix. Dans mon rôle en tant que présidente nationale des étudiants, j'envisage former des clubs, des ambassadeurs de paix au sein des universités. Ce sont des jeunes qui vont recevoir en tout cas les bases de la culture de la paix, de la communication non violente ou pacifique, afin de leur permettre demain d'être des acteurs de paix et de cohésion sociale, pour qu'ils puissent mieux participer à la vie de la cité de manière non violente. Et aussi, j'aimerais préciser que ces ambassadeurs de paix seront dans toutes les universités à travers le pays, parce que nous le savons aujourd'hui, les étudiants que nous avons aujourd'hui, ou je dirais mieux, les différentes autorités que nous avons dans le pays aujourd'hui étaient étudiants hier dans nos universités. Donc la meilleure façon d'avoir des bonnes autorités demain, en tout cas des autorités acteurs de paix, c'est de les préparer dès maintenant au sein des universités. Et par rapport à la résolution 2250, utiliser les moyens conventionnels et toutes les occasions possibles et impossibles afin de véhiculer l'existence de cette résolution. Nous avions par exemple la résolution 1325 sur femmes, paix et sécurité, qui très récemment n'était pas du tout connue. Mais aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits. Mais malgré ces efforts, il y a très peu de femmes qui connaissent l'existence de la résolution 1325. Mais cela n'interdit pas à ce que l'on se batte tous les jours pour que les femmes puissent être incluses dans les processus de paix, et de même les jeunes aussi. Parce que ce que l'on reproche très souvent aux jeunes, c'est le fait que nous manquons quelquefois d'expérience. Mais nous pensons que la meilleure façon d'acquérir de l'expérience, c'est de oser un pas, ensuite un autre. Et de cette façon, nous pouvons être sûrs que demain, nous apprendrons à marcher dans les pas ou à marcher sur les pas de la paix. Et nous, jeunes, nous refusons d'être laissés pour compte. Nous, jeunes, nous refusons d'être mis en marge. Nous, jeunes, nous voulons être acteurs de la paix. Nous voulons être acteurs de la cohésion sociale en RDC. Ce sont là les perspectives. Je vous remercie.
Retrouvez les magazines des Nations Unies désormais tous les dimanches à 8h30 et 19h05, ainsi que tous les mercredis à 14h15, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, votre radio. Vous écoutez 100% Jeunes, le magazine des jeunes pour les jeunes avec les jeunes de Radio Okapi. Dans ce nouveau numéro, nous poursuivons avec le thème sur les jeunes et la résolution 2250. Nous parlons aujourd'hui plus particulièrement de l'implication des jeunes dans l'effectivité de cette résolution.
L'invité.
Comme la fois dernière, nous recevons sur ce plateau Simon Idi du Fonds pour la femme congolaise, et puis évidemment Eddie Ave, chargé de questions administratives au bureau de consultation genre et président provincial du MJDD, pour en parler. Bonjour les gars.
Bonjour. Bonjour.
Est-ce qu'il faut un nouveau Sun City pour que la 2250 puisse être étudiée sur la table ou il faut forcément profiter des concertations actuellement?
Il faut mettre, mon collègue va prendre la parole tout de suite, il va peut-être mieux le dire parce qu'il y a un événement qu'on prépare au niveau de la région. Il faut mettre les gens ensemble, en commençant par le ministère des...
Mais les concertations sont en cours, c'est d'ailleurs le bon moment.
Voilà, mais qui va
consultation.
T'y inviter?
Consultation.
Consultation, voilà.
Concerte,
voilà. Qui va t'y inviter? Le pauvre citoyen, c'est celui-là qui va t'y inviter. Peut-être que j'ai...
Provoquer une invitation, par la conseillère en matière de la jeunesse.
Reste aussi à savoir si elle est aussi réceptive que cela. Je dois aussi l'avouer.
Vous émettez déjà des doutes sans pour autant faire le premier pas.
Je sais de quoi je parle. Hein. Je ne dis pas qu'elle ne va pas le faire.
Simon,
elle est de bonne foi, elle peut le faire, chose, mais il faut des démarches appropriées.
Une chose, c'est qu'on ne doit pas retomber dans un cercle vicieux. Où on rentre encore sur Sun City ou quoi.
Vous êtes vraiment sceptique, hein, en
oui. Donc, ce que je peux dire, hein, ça, c'est ma propre conviction, c'est que 20 ans après, on ne peut pas partir de la ligne zéro, comme si rien n'était fait. On peut partir des expériences, et c'était ça, en fait, même, l'essence même de ces dialogues intergénérationnels. Tirer les meilleurs de ce que les femmes ont fait, les miens ont copié les bels exemples. Et les erreurs, on les évite. Mais je vais préciser une chose, et je pense que mon collègue l'a dit, autour des ressources. C'est que c'est à partir de l'an 2000, quand on adopte la 1325, plusieurs États à travers le monde en ont fait un objet de coopération internationale.
Mmh.
Et ça explique en grande partie comment il y a eu une forte mobilisation à soutenir la mise en œuvre de la 1325 au niveau des États. Et donc, quand je prends par exemple les plans de développement pour le Canada, où on revient plusieurs fois sur la politique féministe, et ça n'a rien d'autre que pour soutenir la mise en œuvre de la 1325. Moi, nous, par exemple, au niveau de notre organisation, on a eu beaucoup de fonds en l'an 2018, dans les processus électoraux qui s'est basé effectivement sur la valorisation de la 1325. Comment est-ce que les femmes peuvent participer dans tous les processus au niveau local, provincial, communal, au niveau national? Parce que la question des paix se traite au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une question d'intérêt national. La question des souverainetés au niveau des provinces, des conseils de sécurité, tout ça. Et donc, comme on disait, si on a la même mobilisation pour la 1325 et pour la 2250, et qu'on en fasse également un objet de coopération, ça marcherait. Deuxième élément, c'est que l'État, la résolution encourage les États, exige même que l'État soutienne, que les États soutiennent les initiatives des jeunes. Combien de jeunes aujourd'hui sont porteurs d'incubateurs que l'État n'arrive pas à soutenir?
Non, mais on vient de voir l'État lancer un concours de business plan pour les jeunes entrepreneurs. On parle de 100 millions de dollars de financement des jeunes pour des projets entrepreneuriaux. C'est déjà un grand pas.
On pourrait faire que les événements nous conseillent, qu'on voit à la fin, c'est que seront vraiment... Est-ce que réellement ce seront les jeunes? Mon collègue est revenu sur ça. Parfois, on tape là où il n'y a pas forcément les jeunes.
C'est l'autre problème que je constate. Il n'y a pas possibilité d'envisager un mécanisme de contrôle, de suivi et de réorientation au cas où ça ne marche pas.
Nous, les jeunes, comme disait mon collègue, quand on aura les plans d'action, ça va être plus facile pour nous de nous proposer des bons objectifs, des très bons indicateurs, et clairs même. On sait que pour telle période, pour ça et ça, on aura tel indicateur qu'il faudra vérifier.
D'accord. Et ce plan d'action?
Et je pense qu'on essaie de réunir les efforts, et bientôt vous serez informés quand il sera là.
Et évidemment, si je comprends bien, ce plan d'action comprend également la sensibilisation et la vulgarisation.
Oui, tous ces paramètres vont être pris en compte. Non, c'est sur l'ensemble du territoire national. On dit qu'il faut qu'on ait un mouvement inclusif. On ne va pas dire qu'on prend les jeunes du Congo central.
J'aime bien le mouvement inclusif.
Oui.
Le mouvement 2250.
Oui, on veut qu'il soit inclusif.
C'est comme ça qu'on va l'appeler.
À définir. Cela va être défini. Parce que non seulement inclusif, où on va voir des personnes, des jeunes vivant avec handicap, de quelle manière ils sont affectés, ils sont pleinement les droits d'exprimer. C'est pourquoi j'ai suggéré qu'on fasse les assises nationales sur la jeunesse. Qu'on sache comment les jeunes qui vivent avec handicap, les jeunes ici des groupes armés, les jeunes qui sont dans les secteurs miniers, les jeunes qui autour, par exemple, et il y a plusieurs paramètres à voir. Comment est-ce que les jeunes peuvent avoir accès à la gestion et au contrôle des ressources naturelles? Qu'on n'en fasse pas une question d'impuissant. Parce que si on ne fait que ces facteurs-là, c'est un facteur à conflit. Mais les jeunes ont de l'expérience et à apporter pour voir, ok.
Et surtout de l'énergie.
De l'énergie. Qu'on regarde comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à la traçabilité, par exemple, de la gestion et du contrôle des ressources naturelles, afin qu'ils s'en soient plus des ressources décentes. J'étais dans une conférence récemment du Fonared, et où on était avec le DG de la SNEN. Il a donné des chiffres qui m'ont effrayé. Tenez, par exemple, de l'année 60 à l'an 2019, il y a eu 1055 ingénieurs civils électriciens qui étaient produits uniquement par les universités de Lubumbashi et de Kinshasa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, si le gouvernement entrait pas un vaste projet qui pourrait embaucher 10 000 ingénieurs, et s'il faut les recruter dans ces deux universités, ça veut dire on en manquera et on sera obligé de recruter de la main d'œuvre extérieure. Et en conséquence, les jeunes pourraient croire que c'est l'État qui ne compte pas. Alors, les assises vont nous dire tout ça. Quels sont les jeunes qui sont dans les milieux universitaires, les jeunes intellectuels aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut faire de la réorientation des jeunes? Tout le monde aujourd'hui, seul, les domaines politiques où on pense que tout le monde est attiré, effectivement, puisqu'on ne crée pas des bons cadres dans d'autres secteurs de la vie. Donc, seulement la politique. Donc, pour qu'un jeune réussisse, il faut qu'il soit membre d'un parti politique.
Parce qu'on leur a miroité que cela.
Oui,
mais en même temps, il faut qu'il y ait ces jeunes qui comprennent les choses, puissent également faire une deuxième proposition à côté.
On doit briser ces mythes.
Exactement.
Il faut qu'on arrive à briser ces mythes. Et ça, c'est de notre responsabilité à montrer à d'autres jeunes que non, il n'y a pas que ça. Prenez le cas du Nigeria aujourd'hui. Il y a plus de jeunes millionnaires au Nigeria puisqu'ils entreprennent. On ne peut pas devenir millionnaire en politique. C'est en entreprenant que les jeunes pourraient souffrir les restes de ce qu'ils espèrent avoir. Les cadres immobiliers, un cadre de vie beaucoup plus prospère. Mais ce n'est pas vraiment politique.
Moi, j'ai l'impression que tout est là pour les jeunes, mais que ce n'est pas correctement structuré. Hein. Quand on parle des initiatives qui sont mises en place aujourd'hui, ça n'a pas l'air vraiment structuré, que les gens ne s'en rendent pas vraiment compte comme il se doit. Les gars, on va peut-être s'arrêter là, puisqu'on a évoqué les deux aspects. On a parlé de cette journée qui s'est déroulée du 30 au 31 avec le dialogue intergénérationnel autour des résolutions 2250 et 1325. Et là, nous venons donc de boucler donc avec ce point-là concernant notamment la maîtrise de la résolution 2250 et sa vulgarisation. Donc on confirme qu'il faut une grande campagne.
Il faut une grande campagne. Oui, il faut une grande campagne de
vulgarisation. Qu'est-ce qu'il faut pour cette campagne? Qu'est-ce qu'il faut pour mobiliser les gens?
Engagement des jeunes. Oui. Engagement des jeunes. Accompagnement des pouvoirs publics. L'État doit accompagner. Et j'en appelle à la communauté internationale à soutenir les jeunes, à appuyer les jeunes, les efforts des jeunes, que l'État appuie les initiatives des jeunes. Vous avez parlé d'un projet de l'État, on soutient très fermement, mais que la communauté internationale appuie les jeunes. Un appel, que les jeunes cessent de s'affilier aux groupes armés. Il y a un autre moyen de bâtir la République.
Ça, c'était pour vous, Simon Hildi. Ediav,
en tout cas, je...
On précisera également quand est-ce que ça va commencer, cette campagne?
Oui, on va préciser, effectivement. Nous, notre mot de la fin, c'est effectivement, comme l'a dit le collègue, d'en appeler à la responsabilité de notre État congolais, par l'entremise du ministère d'État en charge de la jeunesse et l'initiation à la nouvelle citoyenneté, de prendre les choses en main. Nous en appelons aux jeunes à s'informer. Mais ce que nous allons faire de manière tout à fait particulière, nous avons mis un petit groupe WhatsApp, et ceux qui veulent adhérer, ceux qui travaillent sous l'agenda résolution 2250, jeunes, paix et sécurité, à travers l'étendue du pays, même au niveau de la diaspora,
peuvent rejoindre
le groupe WhatsApp.
Alors, c'est quel numéro?
Notre, disons, le numéro du groupe WhatsApp, Jeunes Paix Sécurité, c'est 081 260 460 3. Je reprends. 081 260 460 3. C'est notre petit groupe WhatsApp. En fait, nous avons mis ce petit groupe WhatsApp, c'est pour recueillir les éléments des uns des autres. Le travail est immense, mais il demande la participation et la contribution des autres. Nous avons fait l'ensemble du territoire national, effectivement, à travers nos activités. Nous nous sommes dit à la fin que le travail de la jeunesse est immense. Cette instrumentalisation est faite parce qu'ils sont sans emploi. Et nous félicitons ici, nous l'avons vu de nos deux yeux, le gouverneur du Lualaba qui a mis en place un fonds. Et ce fonds-là, il l'a octroyé aux jeunes entrepreneurs. Il donne 5 000 $ à chaque jeune et il travaille. Au bout d'un certain moment, il rembourse. Et cette technique-là, ce travail-là a été fait, mais il produit beaucoup de fruits. On ne peut pas, comme l'a dit le collègue, on ne peut pas avoir des millionnaires en politique. D'ailleurs, je vous informe qu'en politique, quand on estime y avoir des millions, ça veut dire qu'on s'attend vraiment voler comme jamais par le passé. Donc, il faut pousser les jeunes à plus de responsabilités. Mais nous restons tout à fait ouverts par rapport à tous les dialogues, à toutes les sollicitations,
toutes les idées pour apporter
un plus.
Surtout par WhatsApp, parce qu'effectivement, c'est le point de départ. Hein.
Voilà, par le groupe WhatsApp.
À partir de là, il y aura des idées et puis tout sera planifié pour mettre en place cette grande campagne.
Voilà, la campagne va commencer effectivement, mais avec l'aide de Dieu, nous savons que tout est possible. Et nous invitons le Palais de la Nation à nous associer aux consultations. C'est possible.
Vraiment, qu'ils en tiennent compte, vraiment.
Ah, okay. Comme je le disais, cher Baya, la résolution 2250 en appelle à tous les représentants spéciaux du secrétaire général à prendre les responsabilités pour accompagner ces jeunes. Et nous disons que la résolution 2250 ne peut être palpable. Donc sa mise en œuvre ne peut être pas palpable que lorsque nous avons l'accompagnement, par exemple, de madame l'envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, la représentante, voulais-je dire, du secrétaire général des Nations Unies en RDC, madame Leila Zirigui, que nous avons ardemment voulu voir. Je vous informe qu'en son temps, on avait la latitude, on avait vraiment la facilité de pouvoir rencontrer l'ancien secrétaire général, l'ancien représentant spécial du secrétaire général. Martin Kobler, qui a non seulement donné un appui financier d'une grande valeur, mais aussi en son temps, M. Martin Kobler avait autorisé que les civil affairs nous donnent le transport facile. Donc, quand le MJDD organisait des activités à travers l'étendue du territoire national, la MONUSCO, qui est toujours notre ancien partenaire, nous donnait le transport. Donc, on prenait les délégués venus de Goma, de Bukavu, de Uvira, tous on se retrouvait quelque part. Et nous souhaitons que Mme Leila Zirigui, nonobstant le coronavirus qui a tout bloqué, prenne aussi l'élan. Si cette campagne-là, au niveau national, peut réussir, il faut son implication personnelle, comme l'exigent les points relatifs à l'accompagnement par la résolution 2250. Donc on espère.
Merci à vous Simon Idi du Fonds pour la femme congolaise et à vous Ediave qui est chargée de la question administrative au bureau de consultation genre, mais aussi président provincial du MJDD. Les gars, à très bientôt.
Merci. C'était un plaisir.
Ainsi prend fin le magazine 100% Jeunes qui a abordé ce jour le thème sur la résolution 2250 en ce qui concerne la jeunesse, paix et la sécurité. Avec un accent particulier bien sûr sur les perspectives envisagées pour bien impliquer les plus de jeunes dans l'effectivité de cette résolution. Merci à Hervé Vauca qui a participé à la production de ce magazine, supervisé par Thérèse Cancou. La prise de son assurée par Alain Goy. Je suis Bayet Chamala. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même heure, même radio, pour un nouveau rendez-vous de 100% Jeunes. Ciao, ciao.